Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rends l'argent. Rends l'argent, Franck Marshall, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Sans déconner, quoi.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes. Alors cette semaine, on va parler d'un classique.
Un chef-d'œuvre
absolu. Alors on va essayer de rester objectif, Rafik. Hein. Je suis avec mon ami Rafik Djoumi.
Voilà. Salut Steph.
Salut Raf. Et en fait, on va essayer de rester objectif parce que pour nous, c'est un film qui
a compté
dans notre cœur.
Oui, et qui compte encore. Oui.
Voilà, aujourd'hui. Mmh. Et il s'agit de Congo.
Oui, exactement. Congo, ouais. 1995, film de Franck Marshall, production Amblin, si je ne m'abuse.
Je crois.
Donc coproduit avec Kathleen Kennedy. Enfin, en gros, le film qui a tout bon, musique de Jerry Goldsmith.
Adapté de Michael Crichton.
Adapté de Michael Crichton.
Avec voilà. Jurassic Park, toi.
Tout est là. Il n'y a, ouais, pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est le film des années 90. En gros, quoi. Voilà. Certains disent que la même année où vaguement il y avait une espèce de Die Hard 3 qui se balayait dans le coin, mais bon, je pense que c'est très grandement exagéré.
Die Hard 3, Schmaillard 3. Voilà. Congo. En parlant de Congo, ouais. ne dévie pas, quoi. Donc, Congo.
Ouais.
Adapté d'un roman de Michael Crichton qu'il a écrit à la fin des années 70.
Exactement, mais qu'il a écrit dans le but de faire un film, en fait. Parce que ce qui s'était passé, c'est que Crichton avait d'abord fait, comment ça s'appelle, La Grande Attaque du Train d'Or. Il avait écrit un bouquin en 75, qu'il a ensuite adapté en film en 78, avec Sean Connery et Donald Pleasance, qui est un film magnifique, si vous ne connaissez pas, on n'en parlera jamais dans Ministerite parce qu'il n'y a pas de gros coup de poing dans la gueule, mais quand même, c'est un sacré bon film.
Il y a des singes ?
Il n'y a pas de singes, il y a des trains.
Tomber,
il n'y a pas de singes. Donc, La Grande Attaque du Train d'Or, le meilleur film de Michael Crichton. Et donc, ça s'est très très bien passé et la relation avec Sean Connery a été tellement productive qu'il voulait absolument refaire autre chose avec lui. Et en fait, il pensait que Sean Connery ferait un Alan Quatermain parfait. Et donc, il s'est dit, il faut absolument que j'écrive un film sur un grand chasseur blanc, en fait, à la Alan Quatermain, dans l'esprit un peu pulp. Et puisque donc, pour ceux qui l'ignorent et qui voient tout de suite Richard Chamberlain, je vous arrête tout de suite. Donc Alan Quatermain, c'est un personnage de la littérature pulp du début du XXe siècle, hein, que d'ailleurs, incidemment, Sean Connery va finir par interpréter plus ou moins dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ouais, des années plus tard. Et donc, il écrit Congo un peu dans l'état d'esprit de « je veux faire un film qui me refasse plonger en enfance dans cette littérature pulp », mais en même temps, c'est...
Et dans des films qui existaient, hein, dans les années 50.
Exactement. Et en même temps, c'est l'époque où Michael Crichton est entre autres intéressé par les travaux de ce qu'on appelait, je crois, Coco, le singe qui parle, en fait, qui étaient tous les travaux des sourds-muets pour donner la parole à des gorilles. Et donc, il a déjà l'idée d'associer le héros qu'il va créer
génial.
Avec un gorille.
Comme une idée géniale.
Qui est une idée absolument totalement brillante.
Parce que, en fait, comme l'a démontré Doudur et Dingue, si tu veux, auparavant, on peut faire un buddy movie avec un singe.
On peut faire un chef-d'œuvre avec un singe. Ouais. Voilà. Et donc il a c'était le héros était censé s'appeler Charles Monroe, et donc il était accompagné d'un singe qui s'appelait Amy dans ses aventures en Afrique, bon bref. Il écrit donc dans son livre, il remet le mythe de la Lost City of Zinj, etc. Bon bref, d'ailleurs, on a revu ces dernières années dans un film plus sérieux.
Bien plus sérieux que Congo.
Voilà. Mais pas aussi, je pense, pas aussi brillant, voilà. Métaphysiquement parlant. Mais... Et donc il publie le bouquin dans le but d'en faire le film. Le bouquin sort, marche correctement. Et entre temps, Crichton se prend des gamelles dans sa carrière personnelle, et notamment la sortie de Looker, qui est un film qui l'a bien flingué, peut-être totalement oublié aujourd'hui. Et il va avoir énormément de mal à se refaire. Il est toujours considéré très considéré sur le plan...
C'est lui qui a réalisé ce film avec Tom Selleck.
Runaway, les Vedettes du futur. Oui.
Avec la balle qui te rassemble. Ouais.
Mais toujours est-il que je crois que c'est en 83 quoi, qu'on lui pose la question. Je crois que c'est dans une interview dans Starlog où il dit pour ce qui est le Congo, c'est mort. Et en plus, entre-temps, il y a eu les aventures à l'Arche perdue qui a finalement complètement régénéré l'esprit pulp au cinéma, mais sous une forme peut-être qui était très éloignée de ce que Michael Crichton voulait faire. Finalement, lui, il était plus proche de Spirou quelque part.
Heureusement, les voies du cinéma sont impénétrables.
Exactement.
Voilà. Et on arrive 10 ans après.
Et en fait, il a vendu les droits, donc il appartenait plus du tout. J'imagine que ça doit probablement être sur le plateau des Aventures à l'Arche perdue que Marshall et Kennedy ont commencé à fleurer le bon plan. Donc, Frank Marshall et Kathleen Kennedy sont les cofondateurs avec Steven Spielberg de la société Amblin, donc à un peu de choses près, je crois, la boîte de prod qui a défini les années 80. À Hollywood, donc ils sont derrière tous les projets, les Retour à le futur, les Indiana Jones, les E.T. et compagnie, les Jurassic Park. Et donc au début des années 90, en fait, ils se contentent plus de suivre le maître dans ses différents désirs de producteurs. Ils sont aussi à l'initiative de pas mal de projets, dont certains vont être réalisés par Frank Marshall. Frank Marshall, vous pouvez l'entreapercevoir, c'est lui le pilote allemand qui se fait assommer par Karen Allen dans Les Aventures de l'Arche perdue sur l'aile volante en fait. Pas le gros baraqué qui se bat contre Indiana Jones.
Voilà. Pas vraiment.
Mais celui qui essaie de buter Indiana Jones avec son flingue, en fait, il se fait assommer, c'est Frank Marshall.
Aussi bon acteur que réalisateur.
Bah, qui d'ailleurs avait lui aussi des velléités de comédien. C'est un peu un gosse-beau, en fait, Frank Marshall, à cette époque-là.
Je pense que quand tu as fait Congo, tu les tombes toutes. Moi, je pense que c'est assez clair.
Non, mais bon, là, écoute, un des premiers. Frank Marshall, si tu veux, il a quand même commencé avec. Dans les films avec les films de Peter Bogdanovich, hein. C'est The Last Picture Show et La Barbe à Papa, hein, ses premiers
mais certes et il a fait Congo quoi, c'est tout.
Il s'est ensuite spécialisé dans un cinéma beaucoup plus populaire,
un cinéma simiesque
avec non mais je sais pas moi, t'as Roger Rabbit
qui est Frank Marshall, je dis pas le contraire, bon, hein. Mais il y avait des réalisateurs derrière ces films.
Non, en fait quand il s'est mis à réaliser son premier long métrage Amblin, c'était Arachnophobie.
Vu en salle. Ringard aussi.
C'est complètement ringard, mais ouais. Encore une fois, ça fait partie de ces films concept.
On va faire plein d'amis, en fait, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui aiment Arachnophobie.
Y a des gens qui ont vécu les années vidéoclubs, donc c'est les films que tu mates.
Moi, je l'ai vu en salle, ce film, hein, je me rappelle Arachnophobie.
Complètement con, mais il y a moi, je suis dans le What You See, What You Get. C'est le film, il est exactement ce que tu pensais qu'il allait être avant de rentrer. Et effectivement, tu peux te demander pourquoi tu l'as vu alors que tu savais déjà ce que c'était. Mais voilà, ça va.
Non,
ça
mais je pense haut. Que c'est un type. Après, pour être un peu plus sérieux.
Pour moi, c'est pire quand ils essaient de se prendre au sérieux et que deux ans plus tard, ils font Les Survivants qui se voient la grande œuvre dramatique nominable aux Oscars et qui est juste.
Et qui passe complètement à côté du sujet principal, surtout, c'est ça le truc, parce que c'est l'histoire de rescaper d'un crash d'avion qui se sont bouffés pour survivre.
Les cannibales,
et en fait du coup il n'y a pas de cannibalisme dans le film. C'est ça qui est complètement dingue quoi.
En fait Congo est plus gore,
ils mangeaient de la neige les mecs. Je sais pas, je compte, c'est bizarre, ouais c'est vrai, en plus Congo est plus gore parce que mine de rien en fait c'est un PG-13 je crois, hein.
Et
ça désingue du sang, mais comme des gros bâtards quoi, tu vois, c'est parce qu'on revient dans Congo.
Non mais je reviens sur pour une des raisons qui a fait que le projet de Michael Crichton ne s'est pas fait. Il y avait bien sûr le fait que sa carrière est partie en vrille après Looker, mais aussi parce que Crichton voulait absolument tourner avec un vrai gorille. Il voulait pas. Et comme il le disait à l'époque, il voulait pas Rick Baker déguisé. Crichton qui disait ça à l'époque. Hein,
donc voilà. Il préfère Stan Winston déguisé, quoi. Non mais.
Et donc il fallait attendre que le développement de l'animatronique permette de faire un singe auquel on puisse croire, et qu'il soit pas un comédien déguisé. Et apparemment, à la Paramount, ils ont estimé que le temps était venu, puisque donc un jour, Sherry Lansing a fait une présentation digne de Robocop, où elle avait donc tout le staff de la Paramount qui était réuni. Et alors elle leur a dit, elle leur a dit, vous connaissez tous Tom Cruise, vous connaissez tous Harrison Ford, laissez-moi vous présenter la nouvelle star de Paramount. Et là, les portes se sont ouvertes et un gorille est entré dans la pièce.
Putain.
Et ils étaient tous stupéfait. Et elle leur a dit, attention, ils sont très, très timides et très nerveux, ne faites pas de bruit, alors que le gorille passait d'un siège à l'autre. Voilà.
Pourquoi c'est pas sur le Blu-ray, ça ?
J'aurais trop voulu voir ça, quoi.
Et donc, c'était effectivement le Emmy du studio Stan Winston qui est apparu à ce moment-là et qui a bluffé le comité présent.
Alors,
Stéphane, tu es vraiment une mauvaise personne. En fait, je pense que tu te fous de la gueule des gorilles aux os, toi.
Non, justement, au contraire. Mais tu rigoles, mais alors, revenons un petit peu sur le film quand même, là, parce que là, tout ça, t'as beaucoup traîné des pieds, là, en fait.
Avant d'avouer de quoi il s'agit.
Ouais, de rentrer dans le vrai vif du sujet. Congo, c'est en gros Simiesk Park. Hein. C'était ça la logique de Paramount derrière. Ils ont vu le carton de Jurassic Park, ils se sont dit on a les droits d'un roman de Crichton, on y va quoi. C'est, ouais. Et en fait, je pense qu'ils l'ont voulu vraiment l'aborder sous cet angle-là. Apparemment, à l'époque, il avait été décidé que les effets spéciaux numériques n'étaient pas au point. Notamment pour la fourrure, je crois, pour faire en sorte que les singes soient faits comme on peut le voir aujourd'hui, par exemple, dans la dernière trilogie de La Planète des Singes, hein, où c'est quand même assez bluffant, quoi. Il n'y avait pas de ça. Du coup, en fait, ils ne sont pas allés chercher effectivement Rick Baker. Et sans aller chercher. Alors, notre ami Julien Dupuis n'est pas là. Donc, en fait, ça se trouve, il va s'arracher les cheveux quand il va entendre ce qu'on va dire sur le travail de Stan Winston. Et ça se trouve, il va nous dire, mais les gars, c'est brillant, vous en avez pas rendu compte, quoi. Et donc, ils sont allés chercher Stan Winston, qui lui, en fait, voyait ça comme un défi parce qu'il n'était pas connu comme le
Baker,
c'était le ape guy, en fait. Le spécialiste des singes, alors qu'en fait lui il était connu pour autre chose, quoi. Stan Winston, c'était les robots, Terminator, tout ça, etc. Et en fait, du coup,
et Aliens aussi,
voilà. Ouais. Et en fait, du coup, il a voulu vraiment il a pris ça comme un défi. Il s'est dit, je vais faire en fait
le plus beau singe de tous les temps.
Voilà, et le plus beau singe de tous les temps. Et il n'y en a pas qu'un, hein, dans le film, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on dit ami effectivement, mais il y a aussi les singes blancs à la fin.
Qui est présente pendant une énorme partie du film, c'est aussi en fait parce que effectivement. Moi, je sais que toi, ce qui t'a fait comprendre le film en amour, c'est de voir Ami boire un cocktail
martini dans un avion. Il n'y a pas que ça, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a tout un tas de trucs. Mais après, c'est étonnant parce que je vais faire une petite parenthèse très rapide. Il y a quelque chose malgré tout, c'est-à-dire que bon, voilà, tu jettes un œil sur le film, tu ne peux pas te tromper. C'est évident que c'est un mec, ou en l'occurrence c'est une meuf déguisée en singe. Tu ne peux pas te tromper, quoi. Et tous les singes du film, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où tu es en train de te dire « Ah putain, c'est un vrai singe, tu vois. » Malgré tout, je le trouve super attachant, ce personnage-là. Mais voilà. Et donc, du coup ça participe du côté un peu... C'est-à-dire, on se fout de la gueule du film, oui, mais en fait, il y a quelque part, j'ai un amour pour le film qui, je pense, n'est pas l'amour initial qui doit être donné au film tel que les concepteurs ont voulu, en fait, rendre le film émouvant. Mais je le trouve émouvant dans sa totale ringardise, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un film... Déjà, c'est un film qui se veut à l'ancienne, hein, c'est-à-dire qu'en gros, clairement...
En fait, c'est un film... C'est pas un film qui se veut, c'est-à-dire c'est un film qui sait pas ce qu'il est, surtout. Je pense que ce qui en fait que c'est un des plus gros aides de cette époque-là, c'est qu'il a pas la moindre idée du genre dans lequel il travaille, puisque déjà, l'histoire, c'est un gros bordel, hein, c'est quand même une expédition en Afrique qui est attaquée par on sait pas quoi, alors qu'elle cherchait des diamants...
Pour une technologie de communication satellite...
Et on en envoie une deuxième avec donc ce singe qui est censé les aider à retrouver
le lieu.
Et ils sont accompagnés d'un...
Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, eux, ils veulent la ramener chez elle. Ami chez elle. Et en fait, Ami, donc, qui parle avec l'ange Yessing. Et puis, elle a une petite machine, en fait, attachée au bras qui retranscrit ses signes en langage.
En fait, c'est Stephen Hopkins en gorille, quoi.
Ouais, non, pas Stephen Hopkins.
Hawkins,
pardon, ouais. J'ai compris Hawkins, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte ? Ça y est, on l'a perdu. Mais c'était Stephen Hawkins. Oui, alors ouais, je devais te dire ça, ou alors le répondeur SFR, quoi. Ouais. Tu vois, parce que voilà, il y a un peu, tu vois, c'est très bizarre, quoi. Et en fait, t'as ce truc, et donc, en fait, t'as ce greffe dessus un pseudo-milliardaire roumain qui est interprété par Tim Curry,
qui est merveilleux, qui est donc a joué un personnage qui s'appelle Erkermer Omolka, donc effectivement un philanthrope roumain qui finance l'expédition.
Roumain, ouais, mais moi j'ai l'impression qu'il recherche c'est quand même le proto-Borat, quoi, dans le film, parce qu'il a des moments
Bon, moi je ne regarde plus le film que pour Tim Curry, de toute façon.
En général, on regarde les films
pour Tim Curry aussi. Parce qu'il est à la recherche de la mythique cité de Zinj,
voilà,
qu'il n'arrive pas à prononcer, donc dans le film, avec son accent qui ne marche pas. Et donc, il constitue effectivement cette expédition, aidé d'un personnage qui devait être celui de Sean Connery, hein, mais dont le nom a a changé, joué par Ernie Hudson de Ghostbusters, qui au lieu de s'appeler Charles Monroe, comme c'était le nom du personnage de Sean Connery, s'appelle Monroe Kelly, qui d'ailleurs leur dit littéralement pour se présenter « Je suis votre grand chasseur blanc ». Alors je sais pas comme dans la VF comment ouais, c'est traduit. Et donc tous ces gens se retrouvent en direction du Congo.
Voilà, et en fait comme ils ont pas d'argent pour payer le comment dire, parce qu'apparemment le grand milliardaire n'est pas si milliardaire que ça, en fait comme ils ont pas d'argent pour payer l'essence en fait, enfin le...
Et qu'ils sont dans un pays où il y a un coup d'état toutes les 5 minutes.
Ouais, en fait, ils sont assistés par Laura Linney,
ouais,
le personnage de Laura Linney, en fait, qui, elle, en fait, elle est
la petite amie de
Bruce Campbell. Qu'on voit. Alors, Bruce Campbell, ne vous excitez pas, on le voit 3 minutes.
Qui est censé mourir au début du film. Ouais.
Voilà, et en fait, en gros, on le voit vraiment 3 minutes, hein, faut pas chercher. Si vous êtes fan d'Evil Dead, tout ça, etc., etc., vous laissez tomber, hein, c'est pas là-dedans que vous êtes repu. Mais alors, le truc, c'est que du coup, en fait, ce personnage-là, qui est pareil, un peu étrange, parce que c'est une ancienne de la CIA, elle bosse pour un truc de communication, etc., qui est menée par, en plus, Jordan Baker, dans un rôle de grand mania des médias absolument, amoral, quoi. 0,11 de subtilité sur le personnage, puisque c'est quand même son fils, hein, le personnage de Bruce Campbell, et en gros, il en a rien à foutre qu'il soit mort sur place ou qu'il ait disparu, quoi. C'est même super drôle, parce qu'il y a une scène, donc en fait, ça arrive au début où tu vois Bruce Campbell qui se fait attaqué par un singe, mais en fait c'est flou.
Hors-champ, on sait pas ce que c'est.
C'est hors-champ, ouais. Et en fait, eux, ils le voient à travers une transmission de caméra par satellite. Et en fait, elle fait un appel elle-même à un moment donné, une deuxième fois, et là, t'as Amy qui passe derrière, en fait, et qui renverse le truc, et l'autre, il croit que c'est vraiment encore arrivé. Il fait « Oh non, pas une deuxième fois !» Il est en train de taper du poing sur la table, comme ça, tu vois, avec une conviction absolument... voilà. Donc bref, je m'égare, je pars dans ce sens, mais c'est ce que j'aime beaucoup ce film. Voilà, et en gros, il se retrouve, c'est elle qui paye du coup le voyage, et du coup, en fait, voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve sur place là-bas.
Ils vont bel et bien trouver cette fameuse cité mythique de Zinj, dont on s'apercevra qu'elle est gardée depuis des millénaires par une espèce de gorille spécifique
de singe blanc
qui a été
tueur
engineered en fait créé par la main humaine pour protéger
on les a poussés en fait à exploiter leur gène criminel quoi,
tout à fait. C'est pour ça qu'ils sont albinos,
voilà. Non mais de toute façon ce film voilà, donc il y a ce truc et alors il y a comme on le disait, il y a peut-être les plus beau singe de l'histoire du cinéma.
Non, et puis il y a ça, et puis encore une fois, le fait que ce soit au départ un projet qui se voulait un projet complet pulp, qui ensuite est adapté par des gens qui ont bossé avec Spielberg, donc qui sont censés d'une certaine manière savoir ce que c'est qu'un faire un film léger, et en même temps, on leur dit de se mettre dans le sillage de Jurassic Park, alors que ça n'a strictement rien à voir, le pitch de Congo. Donc est-ce qu'ils font un film sérieux, technologique, effets spéciaux, ou est-ce qu'ils font un film complètement barré, justement, à Alan Quatermain, production Canon, parce qu'il y a des trucs dans le film qui sont de l'ordre de la parodie, enfin, pour montrer qu'ils sont vraiment en Afrique et pas sur le continent européen. Donc il y a un coup d'état toutes les deux secondes, c'est-à-dire que lorsque le héros arrive sur le tarmac de l'aéroport,
ça explose
parce que il se passe quoi, et puis quelqu'un qui leur explique très très tranquillement oui, c'est un convoi ministériel qui vient de sauter,
c'est la bagnole du président,
voilà.
Mais le truc en fait c'est
que ils sont dans la jungle, à un moment donné ils lèvent la tête et il y a un avion en flamme qui est en train de passer au loin, on saura jamais qui c'était, pourquoi. Mais
voilà. c'est l'équipe qui a été envoyée après
les ministres.
Ouais, c'est ça. Non mais ouais. c'est il y a ça, et alors il y a ce truc quand même assez incroyable où donc c'est un film, parce que là on en ce moment, je suis désolé, hein, je vais faire une aparté là-dessus, mais je vais pas forcément voilà, mais on doit recontextualiser certains films. Alors celui-là, faut y aller parce que en gros t'as quand même des porteurs noirs qui sont en plus les personnages les plus pleutres, les plus trouillards du film, alors qu'ils sont censés connaître le terrain, contrairement aux autres personnages du film.
Oui, mais parce que dans la tradition des Tarzan et autres, les noirs étaient généralement ceux qui se font toujours buter. Et donc là, les mecs, c'est comme si, c'est presque, entre guillemets, ça se voudrait méta. Sauf que comme le film n'est pas... comme le film n'a pas choisi d'être un genre donné, le gag méta, il passe pas.
C'est surtout parce qu'il y a 0,11 d'ironie dans ce film. Tout est sérieux.
Mais on sait pas.
Moi je trouve que si quand même.
Moi je pense que dans les multiples réécritures, il y a un mec qui a dû se dire, bah finalement les porteurs, ils ont vu les films américains avec des porteurs, ils sont dit oh, pas question qu'on se fasse buter.
Je pense que tu vas loin, moi je suis même pas sûr que ce soit ça. Hein.
Moi je pense que vraiment tout le délire c'est pas proto-raciste, mais...
Un peu quand même. Hein.
Ironique du film, je pense qu'il vient du désir de faire un truc méta, alors que le film ne l'est pas. C'est un film qui ne sait pas ce qu'il fait, en fait.
Moi, j'ai surtout l'impression que c'est un film qui a oublié qu'il y a 40 ans de représentation entre les deux qui sont passés, entre les films qu'il cite et le film qu'ils font, entre autres.
Mais encore une fois...
Et ça vaut aussi pour les effets spéciaux, quelque part.
S'ils avaient décidé d'être vraiment dans le sillage de Jurassic Park, toutes ces conneries de coup d'État, etc., en plus, elles n'ont aucune utilité scénaristique. Ouais. Tout ça, ça aurait sauté. Ils auraient au contraire insisté sur le côté technologique. Et tout. Pour moi, on a les restes d'un film qui se voulait couillon et pulp, en fait.
Mais après, moi, je pense qu'il y a aussi ce truc dans le film, en fait, où le film est tellement, finalement, comme tu l'as dit, et mal branlé, que, en gros, je pense que ça participe aussi de la problématique. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je ne veux pas vendre ça comme si c'était Virus Cannibal, le film, mais parce que c'est peut-être pas à ce point-là. C'est quand même plus tuné, c'est quand même plus machin.
50 millions de dollars d'époque, ce qui est en gros le budget de Jurassic Park à l'époque.
Voilà, mais par contre, en fait, le résultat, par moment, c'est chaud, quoi, parce que, en fait,
t'as pas aimé le rhinocéros, l'hippopotame animatronique, ça se voit.
mais sans même parler de ça, quoi. Enfin, je veux dire, le truc, ce qui est quand même hallucinant, c'est que t'as trois plans de la savane,
ouais.
Ok, et le reste du temps, en fait, ils se baladent dans la République bananière de Burbank, quoi, parce que ça se voit que les mecs, ils sont en train de tourner en studio à Los Angeles, quoi.
Pas toujours, moi, il y a des plans, mais j'ai souvenir de plans larges, je l'ai vu en salle en plus, il y a quand même des plans larges.
Il y a quelques plans larges, et puis après, t'as plein de studios, tout le temps.
Ouais,
et alors,
c'est surtout quand ils arrivent à la cité de Zinj que ça devient cheap.
Pas que, il y a plein de plans, en fait, quand tu regardes le film, toi, t'as pas revu le film. T'aurais dû revoir le film, Rafik, avant d'enregistrer cet épisode. Tu t'es basé sur ton souvenir.
Mon souvenir.
T'as voulu garder, préserver l'innocence que t'as eu quand t'as vu le film.
Moi, j'ai vu, j'y allais en mode déconne, j'attendais pas grand chose du film, déjà, j'avais trouvé arachnophobie.
Tellement plus.
J'avais trouvé qu'arachnophobie était à chier, mais j'ai plus pris mon plaisir à Congo, parce qu'effectivement, là où je m'attendais pas du tout à avoir des sensations de jeune lecture, en fait. Encore une fois, j'ai cité Spirou tout à l'heure, mais il y a aussi Vol 714 pour Sydney, puisque donc, sans spoiler, la fin du film, il y a en gros un volcan qui se réveille, et la lave qui se met à couler dans tous les coins, et les personnages
avec
doivent courir.
La plus belle lave de l'histoire du cinéma aussi.
Et les personnages doivent courir, bah oui, mais
la plus réaliste.
C'est pas ILM qui s'était occupé de ça, d'ailleurs, à l'époque.
Mais ouais. Je sais pas qui, mais il faut rendre l'argent, là.
Et donc les personnages doivent courir pour précéder la lave, et ça, c'est littéralement le final de Vol 714 pour Sydney, quoi. Et moi, j'étais en salle, j'étais en train de me dire, on m'avait pas prévenu, tu vois. Moi, je pensais aller voir justement un sous Jurassic Park avec des singes. Je me dis, putain, c'est trop cool, c'est complètement con, mais c'est trop cool, quoi.
Ah, le film, donc, il est mortel. Enfin, ouais. Moi, je le trouve hyper. Je le trouve hyper attachant. On se moque, en fait, vraiment, mais c'est vrai qu'il est hyper attachant, le film, par certains côtés, parce qu'il est tellement. Il essaye tellement de trucs complètement autres.
Ouais.
Et puis, t'as effectivement ce truc avec le personnage d'Ami, parce que là, on en a un petit peu parlé, tu l'as un petit peu touché du doigt, mais c'est quand même hallucinant, ce personnage. Comment on pouvait croire?
Elle pète.
Ouais, elle rote.
Elle rote.
Elle boit du martini.
Elle boit du merci.
Elle fume le cigare.
Ouais.
Tu vois, enfin, c'est
ton rêve incarné.
Non, mais c'est Popeye, là. C'est pas un singe, quoi. Tu vois, donc en fait, c'est complètement. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Tu vois, et le truc, si tu veux, c'est que t'as la scène finale où les mecs, en fait, ils arrivent. C'est un film qui se voudrait dans le respect de la nature, dans le respect de tous ces trucs-là, parce que c'est un terme. Il y a des logiques écologiques, en fait, derrière. Pourquoi on ramène le singe là-bas? Il faut qu'elle revienne dans son pays. Il faut qu'on respecte ça. Et les mecs, ils butent des singes, mais comme des gros enculés. Mais pendant un quart d'heure à la fin. Mais en plus avec des impacts de balles, comme si c'était un film, comme si c'était des nazis. Ouais. les singes, c'est hallucinant, quoi. Tu vois. Et tu les vois. Tu vois les singes en train de se faire, exploser au ralenti et tout ça, etc. Y compris quand elle a réussi à les calmer.
Ouais.
Elle a rien à foutre. Et par le personnage de Laura Linney, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qui arrive et qui dit, mets-les sur les. T'as qu'à les mettre sur la liste des espèces en danger, quoi. Tu vois, avec une punchline d'enculé. Tu vois, enfin, c'est vraiment. Le film, il est complètement. À la fin, c'est un massacre, c'est horrible, quoi. T'as l'impression de regarder quand les aigles attaquent avec une tissue qui désingue tous les nazis, sauf que là, c'est des singes, les pauvres, quoi. Tu vois, c'est, ils ont rien fait de mal, ils sont juste en train de protéger leur territoire, quoi. Moi, je suis du côté des singes dans ce film. Okay. Tu vois, ça, il faut qu'on soit clair là-dessus, Rafik, tu vois.
Mais bon, reconnaissant quand même que malgré un accueil critique plutôt froid, il faut l'avouer. Bon,
étrangement, contre toute attente.
Le film a marché, il a rapporté millions, voilà. Sans plus, mais c'était. Voilà, la Paramount était quand même plutôt satisfaite. Et il a été nommé meilleur film de science-fiction de l'année au Saturn Award de l'époque. Donc, bon, quand même, un prix relativement prestigieux.
Bon, alors, cette année-là, il y avait Judge Dredd.
Il était aussi au Razzie Awards à côté. Bon, mais.
Normal.
Saturn Award, mec.
dame, les mecs ont rien compris. Ouais.
Et par contre, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo qui était sorti. Donc,
putain,
c'est un truc
à. Ah ouais, faut que j'aille chercher, ça se trouve, c'est vachement bien, toi.
Ouais, retrouver Congo.
Tu joues le singe ou pas? Tu joues Ami?
Je sais pas, j'ai pas joué.
Si tu joues pas Ami, ça n'a aucun intérêt. Non, parce que tu peux pas. Voilà, il y a ce truc.
Pour ceux que ça intéresse, pour les geeks qui nous écoutent, il y a deux aspects du film. Bon, alors, la photo d'Alain Davio, c'est pas son meilleur.
C'est
parce qu'il a fait le mieux. Mais le film est quand même pas dégueu visuellement, ça va, c'est pas embarrassant. Par contre, j'ai une grosse affection pour la musique de Jerry Goldsmith, notamment dans cette scène donc totalement débile où les personnages sont en avion et qu'on leur balance des missiles à la gueule, utilisent des fusées éclairantes. Pour,
mais attends, là, t'expliques le truc, parce que quand tu regardes la scène,
tu comprends pas
ce qui se passe parce qu'ils sont attaqués par une milice en fait au sol, qui leur envoie des missiles. Et enfin des roquettes quoi et du coup ce que Laura Linney fait parce que c'est donc l'héroïne du film elle est un personnage en fait qui est d'ailleurs plus fort que le personnage masculin qui est interprété par Dylan Walsh qui lui pour le coup alors lui vraiment avec l'acteur qui a disparu complètement des radars qui est une espèce d'endive cuite au micro-ondes quoi ça va tellement le mec il est chelasse quoi et en fait le truc si tu veux c'est que elle prend en fait des fusées éclairantes et elle et Ernie Hudson en fait ils se mettent à tirer sur les missiles et en fait ils font mouche à chaque fois alors tu déduis toi, en tant que
spectateur. Non, mais moi, j'avais compris à l'époque.
Ah ouais? Parce que moi, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu vois? Et en fait.
Toi, t'étais en salle, tu t'es levé, t'as frappé dans ta main, tu dis, mais on se fout de notre gueule,
quoi! On se fout de nous, c'est pas possible, c'est de la
chaleur. Non, moi, j'avais compris que c'est des trucs thermiques. Donc en fait, comme ça,
ça fait de la chaleur. Il n'y a pas de autour de ça, c'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est qu'il n'y a pas un seul moment où, par exemple, le fait qu'ils envoient un truc, ne serait-ce que te montrer le missile qui dévie et qui va vers le.
Toi, tu penses que les mercenaires en Afrique, ils savent super bien viser.
Moi, pour moi, il y a un coup d'étendre toutes les deux minutes. Moi, je crois ce que le film me dit. Non, mais.
Ils utilisent, comme tout le monde, des missiles pas téléguidés, mais guidés par la chaleur thermique quoi, de l'appareil. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'envoyer ça pour. Bref. En tout cas, toujours est-il que la musique de Goldsmith, à ce moment-là, elle est trop cool. J'adore ce morceau-là. Et il y a, dans le générique de fin, un long chant africain. Totalement pas du tout africain en réalité, mais qui était avec les beaux M qu'on a retrouvé, qui était aussi à l'époque sur le Roi Lion, je crois. Mais je préfère les chants africains de hollywoodianisés de Congo voilà, à ceux du Roi Lion.
Ah, tu préfères Congo Roi Lion?
Ah bah de toute façon,
c'est ce qu'il faut le dire.
C'est mieux écrit, mieux réalisé à tout point de vue. Voilà,
Donc, je sais pas si vous avez compris, mais en fait, faut voir Congo.
Absolument voir Congo.
Ouais, c'est un très beau film d'aventure.
En fait, c'est un film qui nous dépasse un peu. Là, je réalise qu'on a finalement du mal à en parler. On a du mal à l'aborder parce qu'il y a tellement d'angles différents par lesquels on peut rentrer dans Congo.
Ah moi, j'ai qu'un truc à dire. Si vous aimez les singes et les mecs déguisés en singes, c'est le film pour vous.
Et les philanthropes roumains avec un accent impossible, comme le dit avec Stéphane, l'accent de droite. Ouais, non, il est fabuleux, Tim Curry dans ce film.
Mais de toute façon, ils sont tous à part le couple donc vedette là qui sont complètement oubliés aujourd'hui.
Mais Joe Don Baker, il est bien. Ernie Hudson, bon, par moments, c'est marrant. Donc,
voilà. Et puis, il y a un singe qui boit du martini.
Et qui rote.
Qui rote, qui fume le cigare, qui parle en faisant des gestes.
Voilà. Comme on l'a dit au début d'émission, chef-d'œuvre.
Voilà, chef-d'œuvre. Merci, Rafik.
Merci, Steph.
Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Alors, on a lancé un Tipeee il y a quelques temps.
C'est vrai,
on a lancé un Tipeee il y a quelques temps, Rafik, c'est au courant. Pourtant, tu es sur la vidéo de... Moi, je pensais que tu savais pourquoi on
Tipeee,
faisait cette vidéo.
Tipeee, le truc où les gens peuvent donner des sous pour aider
les artistes,
projets, les artistes et tout ça. C'est cool,
les
ça.
Les journalistes, les artistes, voilà, c'est ça. On l'a lancé, c'est ça.
D'accord.
Et donc, si vous voulez nous soutenir, il n'y a qu'une seule adresse, c'est tipeee.com. Hein. Alors, vous tapez sur Google, hein, tu me le fais pas
T-I-P-E-E. Ah, il y a trois E dans Tipeee.
D'accord. On va pas refaire les mêmes blagues de podcast en podcast quand même. Et les mots-clés, c'est Capture Mag. Et alors, pour nous écouter, les sources habituelles, hein, vous allez sur SoundCloud, vous allez sur notre site, vous allez sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer, je crois, voilà. Je crois, parce que tu n'es même pas au courant.
Et en plus, sur Spotify, vous pouvez enchaîner Capture Mag et ensuite écouter la musique de Will Smith pour Congo.
C'est vrai?
Là, ça te fait la journée.
Ouais, parfait. De toute façon, on va mettre un petit bout. Alain, merci à la technique qu'on remercie, va nous mettre un petit bout de cette musique-là, de ce morceau spécifique.
Le morceau s'appelle Bail Out.
Ouais. C'est celui qu'on entend là, en fait, même si nous, on ne l'entend pas, mais en fait, la magie du montage fait que vous l'entendez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.